Une des choses que nous, on a faites en tant que mentalité, on a décidé d'y aller un petit peu à l'envers du mindset actuel que tout le monde disait qu'il n'y a pas de problème, c'est 100% remote, puis tout le monde peut rester chez eux. On a la philosophie qu'une culture d'entreprise, c'est difficile à faire passer ça à travers un écran, donc on essaie de ramener un maximum de gens au bureau, puis on s'est affiché comme ça. Donc, on a mis plein d'items en place pour inciter les gens à venir au bureau, puis ça fonctionne bien jusqu'à date. Là, on a un taux plus élevé que ce qu'on s'attendait de présentiel.
On a signé une très grosse entente il y a quelques semaines. Ben, j'ai fait un hybride entre les deux. J'ai tout fait la prise de besoin, les premières rencontres avec le CMO puis tout ça en virtuel. Puis on a fait la présentation en présentiel, puis on a négocié en virtuel, puis on a signé le deal en virtuel.
J'ai la chance aujourd'hui d'animer la première édition d'un tout nouveau concept sur hypercroissance intitulé « Panel d'affaires ». Le lundi, on parle de comment amener une entreprise en hypercroissance et le jeudi, on va parler des actualités touchant nos entreprises avec des intervenants qui sont tous déjà passés préalablement sur le podcast. Pour la première conversation de Panel d'affaires, on aborde aujourd'hui trois sujets assez importants. La culture d'entreprise, les espaces de travail dans un ère post-COVID-19, ainsi que les nouvelles techniques à utiliser en développement d'affaires, sachant que beaucoup de choses ont évolué dans les 18 derniers mois. Pour en discuter, on reçoit deux entrepreneurs que j'apprécie beaucoup. Jonathan Léveillé, président et fondateur de Open Mind Technologies, invité lors de l'épisode 31, sera un de nos panélistes. Jonathan, bienvenue sur Hypercroissance.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Antoine. Super apprécié d'être là aujourd'hui.
Apprécié également ici. Et également, on a Jean-Philippe Dauphinet, président et cofondateur de l'agence de marketing numérique RabLab. Jean-Philippe en est même à sa troisième apparition sur le podcast, lui qui a été avec nous lors des épisodes 25 et 55. Re-bienvenue à toi aussi, Jean-Philippe.
C'était une compétition d'apparition sur Hypercroissance contre Jonathan. J'ai déjà gagné en passant. Donc, on a déjà set the bar à quelque part.
1-0 pour JP. Je me déclare vaincu pour l'instant. C'est bon. Mais pas vaincu. Pour le moment, ouais, exact. C'est bon.
Battu pour la première ronde. Antoine, merci beaucoup pour une troisième fois. Répéter. Donc, sérieusement, merci beaucoup pour l'invitation. Bien content de pouvoir discuter avec toi puis Jonathan.
Ben, je pense qu'on va avoir du plaisir, les gars, aujourd'hui parce que les sujets que j'ai choisis, c'est des sujets que je considère que vous, dans vos entreprises, vous comprenez et vous êtes excessivement bon à le faire également. Puis on va commencer avec le sujet numéro un. Donc, messieurs, on vit dans un monde des affaires présentement au Québec plus compétitif que jamais. En avril dernier, la FCEI, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, disait que 67% des entreprises au Québec étaient confrontées à une pénurie de main-d'œuvre et que 26% d'entre elles avaient dû renoncer à des contrats au printemps par manque de personnel. Et le tout s'est même accéléré depuis. Les secteurs de la construction ainsi des services professionnels étaient les deux catégories les plus touchées. Vous êtes les deux des propriétaires d'entreprises en prestation de services. Pouvez-vous me dire aujourd'hui comment vous vivez la situation et quelles sont les techniques que vous utilisez à l'intérieur de votre organisation afin de rester un endroit attractif? Jonathan, je commencerai avec toi ici.
Certainement. Ben, pour répondre au début à la question comment qu'on vit ça, je pense que tout le monde en technologie actuellement, c'est le jeu, je dirais, de la chaise musicale, puis c'est extrêmement difficile de rendre tout le monde heureux. À l'heure actuelle, les gens sont pas heureux à la base, à l'interne, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, là. Bien que ça s'en va dans la bonne direction, là. Donc je pense qu'on vit un grand jeu musical présentement, un grand jeu de chaise musicale d'une entreprise à l'autre. C'est pas évident, autant du point de vue humain que du point de vue entreprise pour opérationnel. Maintenant, ce qu'on a fait chez Open Mind pour essayer de contrer justement cette vague-là, qui est dans toutes les entreprises à l'heure actuelle, on se le cachera pas, là. On a beaucoup de choses qu'on a testées, qu'on a itérées. Il y a des bonnes choses qu'on a faites, il y a des moins bonnes choses qu'on a faites. Je partagerai peut-être les bons coups présentement s'il y en a qui peuvent s'en inspirer et que ça peut aider dans les entreprises. Je pense que c'est un petit peu le but du podcast aussi, là, d'aider les gens à évoluer puis d'avancer. Puis tu m'arrêtes quand tu veux, là. J'ai une couple d'éléments qu'on a mis en place puis je vais laisser la place à JP, là. Donc, une des choses que nous, on a faites en tant que mentalité, on a décidé d'y aller un petit peu à l'envers du mindset actuel que tout le monde disait qu'il n'y a pas de problème, c'est 100% remote puis tout le monde peut rester chez eux. On a la philosophie qu'une culture d'entreprise, c'est difficile à faire passer ça à travers un écran. Donc, on essaie de ramener un maximum de gens au bureau puis on s'est affiché comme ça. Donc, on a mis plein d'items en place pour inciter les gens à venir au bureau puis ça fonctionne bien jusqu'à date. Là, on a un taux plus élevé que ce qu'on s'attendait de présentiel. On a un avantage un petit peu aussi là, d'être sur la rive nord de Montréal. Donc, il n'y a pas de trafic majoritairement pour les gens qui se déplacent chez nous. Versus les gens
de
qui ont
quoi
des...
quoi tu parles avec le trafic?
Pardon, ouais.
Jamais entendu parler du trafic à Montréal.
Aucune idée, c'est quoi. Il y a juste des comptes, mais il n'y a pas de trafic.
Exactement.
Fait qu'on essaie vraiment d'inciter un maximum de gens à venir au bureau. Puis des bons coups qu'on a fait pour réussir à ramener les gens les plus hauts taux de... Dans les journées où on a les plus hauts taux d'attendances dans l'entreprise, c'est le mercredi puis le jeudi. Puis on a fait des éléments pour que les gens se déplacent. Exemple, le jeudi, on a un drink beer à 4 heures où est-ce qu'on arrête l'entreprise. Tout le monde peut s'ouvrir une bière ou prendre un drink, puis là, on parle de c'est quoi les projets qui sont en cours, c'est quoi les technologies, c'est quoi les embûches qu'on a présentement, c'est quoi la réalité des gens dans l'organisation à tour de rôle. Donc, juste ça, ça fait que les gens se déplacent. Même chose, exemple, mercredi, on a fait des éléments où que le monde vont courir le midi ou le soir en finissant de travailler. Fait que juste pour ça, les gens se déplacent, puis un coup déplacé, ben là, ils apprécient d'être au bureau. C'est un peu comme le gym, hein? Ça te tente pas d'y aller, mais quand tu sors de là, tu te rends compte finalement que tu as un niveau de bonheur plus élevé que ouais. Quand tu es rentré là. Donc, on a mis plein de petits éléments comme ça en place pour essayer d'inciter les gens à venir au bureau. Puis jusqu'à date, ça fonctionne bien. Puis on a dit à la gang, ils l'ont vu là, qu'on a perdu en force en termes de culture puis de rétention. Puis on a dit tout le monde va faire partie de la solution qui est un peu une de nos valeurs chez Open Mind. Puis pour ça, ben il faut que vous veniez au bureau, il faut que vous impliquiez puis vous investissiez là-dedans. C'est difficile de créer une cohésion d'équipe quand tout le monde est dans une aréna différente. Fait que c'est difficile de gagner une Coupe Stanley dans ce temps-là. C'est un peu ce qu'on essaie chez Open Mind. Donc, on a, je dirais, à peu près là, 7-8 initiatives qu'on a réussi à avoir un bon leverage à date. Je vais laisser un peu de place à JP, qui est plus habitué ouais. En termes de nombre de podcasts. Fait que JP, je te lance la balle puis je continuerai par la suite.
Mais c'est correct parce que j'ai une longueur d'avance. Fait que c'est correct que ça fait part une partie de la discussion. Non, mais pour vrai, Jonathan, je veux pas avoir l'air du copieur qui passe en arrière, mais je pense que tout ce que Jonathan a fait est excellent. Puis pour vrai, il y a beaucoup de choses qu'il a mentionnées qu'on a pris comme initiative. Puis peut-être juste pour faire un petit parallèle, tu sais, je pense que dans les entreprises de services, mais il y a des petites différences. Je pense, si ma mémoire est bonne, de ce que je connais d'Open Mind, c'est que vous faites beaucoup justement de création de logiciels. Il faut faire de la création quand même assez 360 d'accompagnement de transformation numérique. Donc, tu sais, il y a une partie, je pense, que dans la façon de travailler, quand vous avez accompagné les entreprises, tu sais, mettons, vous êtes pas c'est pas tous les employés tous les jours qui parlent à tous les clients. Là. Tu sais, je pense qu'il y a une partie du monde qui peuvent mettre un certain bout sur pause. Bon, nous, notre côté, c'est 100% tous les gens, tous les jours en service client. Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui sont, je veux dire, qui vont être en shadow, là, qui vont être dans l'ombre, puis qui vont avoir juste un chargé de projet qui va travailler en avant. Fait qu'on a dû vivre, en fait, avec la difficulté de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont, je vais dire, là, sur le front de bataille avec les clients tous les jours, pour essayer de créer justement un environnement qui est un peu plus intéressant dans un contexte pandémique, que les gens étaient 18 mois à la maison, puis on a retour au bureau. Fait qu'on essaie de comme tout rebrasser ça, puis justement, ben première des choses, avant la pandémie, on offrait déjà du télétravail. C'est sûr que la politique de télétravail a pas été trop difficile à enforce parce qu'on avait déjà des gens qui travaillaient en remote à distance. Donc, on l'a juste comme accentué. On a aidé en fait les gens à mieux se sentir à la maison, bien se sentir au travail. Puis comme Jonathan l'a mentionné, on a mis en fait une politique de télétravail hybride qu'on force, entre guillemets, les gens à venir minimum une fois par semaine au bureau. Puis je pense que c'est un élément qui, autant dans l'entreprise de Jonathan que dans la mienne, que sûrement dans la tienne, Antoine, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est la présence au bureau à un minimum par semaine. Je pense que ça garde une cohésion d'équipe. Ça l'aide aussi à ce que les gens... Puis on a tout suivi une formation avec une dame qui s'appelle Chantal Dufort qui travaille pour tout ce qui est les maladies... je vais pas dire maladies mentales, mais tout ce qui est les problèmes de santé mentale en entreprise puis tout ça. Puis c'est un fléau en ce moment. Les gens ont de la difficulté à reprendre des contacts humains. Donc, on a essayé de vraiment mettre ça au centre des priorités. Donc, retour au bureau progressif, une journée. On vise deux journées par semaine au bureau avec, dans le fond, justement, de façon hybride. Donc, on a fait des activités à distance, fait des activités au bureau. Fait que, un, je pense, c'est le cadre. L'autre, c'est, en fait, un, c'est le contenant. L'autre, c'est le contenu. Fait que le contenu, c'est au bureau. Ben, évidemment, on a aussi, bon, nos petits perks, comme tout le monde, là, les petits jeux d'hiver et tout ça. Mais on a mis l'activité physique quand même à part entière, là, au centre des priorités. Donc, on a un entraîneur qui suit tout Rablab. Donc, il y a une séance d'entraînement les mercredis à 11h. C'est un entraîneur virtuel, sinon tu peux t'entraîner au gym, au bureau, pour suivre l'entraîneur. Fait que ça, on a vraiment mis l'entraînement physique comme un meeting, là, donc de 11 à midi, pas sur tes heures personnelles, sur les heures de bureau pour venir, en fait, avoir un balan entre les deux. Puis en fait, le bureau, on a déménagé, ça s'appelle Fabricate, c'est coin Jean Talon, Waverly, là, c'est presque Jean Talon, Saint-Laurent. C'est un nouveau bâtiment, là, on parle d'un investissement de plus de 30 millions de dollars, puis il y a un terrain de basketball sur le toit, que l'hiver s'est converti en patinoire, il y a un gym immense, et que vraiment, il y a beaucoup de beaux perks. C'est un 5 à 7 avec presque tous les employés, les entreprises. Il y a Guru, il y a plein de belles entreprises qui sont là-dedans. Enfin, je pense que c'est justement cette espèce de dynamique-là de j'ai un confort à la maison parce qu'on a bien outillé le monde. Quand je suis au bureau, je me sens confortable aussi parce que je suis avec mes collègues de travail puis l'environnement de travail est sécuritaire. Puis en plus de ça, ben le contenu, ben l'espace de travail qui est offert, tu sais, que ce soit WeWork, Fabricate, bureau qui nous appartient, je pense qu'il faut donner le meilleur cadre et le meilleur environnement pour les employés pour qu'ils soient le plus, en fait, intéressés à faire partie de la mission. Là, pas juste comme je viens, je ramasse mon paycheck, ben je viens, je suis intéressé, je participe au purpose et à la mission. parce qu'on est engagé avec eux.
Puis j'aimerais pousser la réflexion un petit peu plus loin, messieurs, par rapport à ça. Donc, vous avez parlé ici de comment aider les employés à se sentir mieux. Je pense que c'est la fondation même, hein, pour être certain qu'on a une bonne culture d'entreprise. Si les employés sont pas heureux, c'est très difficile de faire en sorte que la mission de l'organisation soit atteinte. Ceci étant dit, maintenant, j'ai l'impression que seulement rendre les employés heureux n'est peut-être pas assez. On veut travailler pour une entreprise qui doit avoir une mission, qui a des objectifs à atteindre. Je ramènerai ça vers toi, Jonathan. Est-ce que tu as eu peut-être à changer ta mission, à changer peut-être l'objectif que l'entreprise a à atteindre dans un contexte de pandémie, dans un contexte de travail à la maison? Est-ce qu'il fallait revoir peut-être les objectifs pour être certain que là, les gens, là, ils rentrent encore dans le bateau, ils comprennent où est-ce qu'on s'en va, puis que là, par la suite, on retourne à l'attaque?
Une des choses qu'on est en train de faire présentement, c'est de déployer à l'ensemble de l'organisation un exercice qui s'appelle la Vivid Vision. Donc, c'est une vision précise de comment que j'ai dans ma tête l'organisation devant nous. On s'en allait la libérer à tous juste avant la pandémie. La pandémie a bougé beaucoup de choses. On a dû effectivement changer des choses dans cette vision-là, puis bouger un petit peu les dates également pour la repousser un petit peu devant nous. Fait que oui, ça a changé un paquet d'éléments, mais je dirais dans le terme de qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de mobiliser encore un peu plus les gens à venir au bureau pour faire un lien avec la question d'avant, c'est que on est sorti publiquement à tout le monde dans l'organisation dire les seniors dans l'organisation, votre mission, c'est d'aider les juniors à évoluer vers le haut. Puis les juniors, votre mission, c'est d'être proche des seniors pour évoluer le plus vite possible vers le haut puis de s'inspirer de ces gens-là. Puis on leur dit, c'est pas vrai qu'en télétravail, vous êtes capable de faire ça de manière efficace. Donc, il faut que vous soyez en présentiel. Puis pour remplir cette mission-là que vous avez chacun et chacune, ça prend du temps avec vos collègues, ça prend une lecture du non-verbal au day-to-day. Puis, c'est pas vrai que la personne junior qui a un problème depuis 2h30 devant son écran puis qui est seul chez eux, c'est pas vrai qu'il va tout le temps lever la main puis appeler sur Teams le senior puis le déranger tout le temps. Tandis que s'ils sont un à côté de l'autre, il fait juste un petit coup d'épaule, puis peux-tu venir juste m'aider 2 secondes, ça fonctionne pas. Ou l'autre le voit dans son non-verbal qui tourne en rond. Donc, cette mission-là qu'on a poussé un petit peu à tout le monde, je pense que c'est ce qui a aidé aux gens à comprendre pourquoi c'est requis qu'ils soient le plus possible au bureau, puis en quoi c'est bénéfique pour eux. Puis pour l'organisation finale. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'on a été chercher un petit taux de présentiel un petit peu plus élevé dans l'organisation que ce qu'on observe dans d'autres organisations présentement.
Intéressant. Puis je vais continuer là-dessus parce que vous m'avez facilité la tâche, messieurs, dans ma transition. Le deuxième sujet que je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'est espace de travail, environnement de travail, travail à la maison. On l'a déjà abordé le sujet un peu, mais je vais vous donner peut-être un petit peu plus de contexte et vous donner également mon opinion par rapport à ça. Donc, en début juillet, la BDC a émis un rapport très détaillé sur les nouvelles habitudes de travail des employés en ce qui concerne le travail à la maison ou en présentiel. Voici quelques chiffres afin de bien situer les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui. Donc, il y a 74% des dirigeants qui affirment offrir aux employés la possibilité de continuer le travail à la maison. Donc, c'est 3 employeurs sur 4, c'est beaucoup de gens. 54% des employés sondés disent que l'accès au télétravail sera un facteur déterminant avant de postuler ou d'accepter un nouvel emploi. Également, les employeurs remarquent une augmentation de 25% du temps travaillé par leurs employés quand ils travaillent de la maison. OK, donc je voulais amener ces chiffres-là pour donner un petit peu plus de contexte à l'audience aujourd'hui. Je reviens à ce que vous avez dit plus tôt, messieurs, puis je commencerai avec toi, Jean-Philippe. Vous exigez, je pense que le terme est bon ici, une journée maintenant, en tout cas du moins JP, je pense que c'est ça, c'est une journée maintenant que les gens doivent travailler au bureau. Ça a été reçu comment, ça? Ça a été reçu comment? Est-ce que ça a été reçu bien? Est-ce que ça a été reçu moins bien? Je te donne un petit peu de contexte pourquoi je te pose cette question-là. C'est que nous, chez G7, pendant la pandémie, on est une entreprise qui est située au centre-ville de Montréal, on a engagé plus de 5 personnes dans la ville de Québec. Et on n'a pas encore de bureau dans la ville de Québec. Donc, bien entendu, ces gens-là restent en télétravail pour le moment. Et on a discuté beaucoup avec des gens dans notre organisation et on s'est rendu compte que oui, certains veulent revenir au bureau, mais je serais pas prêt à dire que ça serait une bonne chose pour moi de le rendre comme une exigence. Donc, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Comment que ça a été reçu de la part des employés, on va dire, cette exigence de revenir au moins une fois au bureau par semaine?
C'est une bonne question. Tu sais, je pense que chaque entreprise a sa propre réalité aussi, là. Dans le sens que c'est au niveau culturel, puis dans nos core values, qu'on détermine là, les actions qu'on prend, puis comment que on porte les réflexions de demain. Là. Puis nous autres, ça a toujours été dans notre core values depuis qu'on a démarré l'entreprise. Ça va faire 6 ans en mars 2022. Mais depuis la première journée qu'on l'a démarré, ça a toujours été la famille, le travail collaboratif, tu sais, les coéquipiers, le travail d'équipe. Donc, c'est sûr que ça rime aussi avec une partie présentielle. Donc, quand on est arrivé avec ça, je pense que c'était aucune surprise pour personne. Tu sais, si on disait, ah ouais, on fait travailler des gens en Ukraine, des gens au Madagascar, on a des gens remote, puis ça faisait des années qu'on faisait ça, arriver avec une politique de « Hey, il faudrait que tout le monde vienne au bureau », je pense qu'il y aurait quand même un clash entre notre vision, notre culture, puis qu'est-ce qu'on dit. Fait que, tu sais, les babines suivent pas les bottines. Mais dans ce cas-là, je pense que les gens ont juste dit « Ah, ça a du sens ». Puis en réalité, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que plus que l'entreprise est rendue grande, on va être une trentaine de personnes qu'on va finir l'année. Plus que l'entreprise est grande, plus que on a besoin d'un cadre, pas nécessairement qui est rigide, mais on a besoin d'un cadre pour que les gens aient une certaine direction et qu'ils comprennent des fois même juste des subtilités. Puis juste faire une petite parenthèse, l'été, on offre, dans le fond, toutes les après-midi, on offre toutes les après-midi off, donc de congé, le vendredi PM, pour que justement les gens puissent profiter des petits 5 à 7 plus tôt, puis bon, tout ça. On n'avait pas mis d'heure, on avait dit « Ah, c'est vendredi PM ». Mais là, les gens commençaient vendredi PM pas mal tôt, genre comme midi moins. Là, tu sais, les gens commençaient à gruger un peu. Fait que là, il a fallu juste mettre une heure spécifiquement pour dire « Voici l'heure à laquelle on s'attend que tu pourrais prendre ça ». Puis tu te dis « Ouais, mais il y a du common sense, puis il y a du jugement, puis je suis d'accord avec ça ». Mais il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'informations qui se transisent dans une journée que le fait de dire « Voici l'heure, voici la journée, voici qu'est-ce qu'on s'attend », écrit sur papier, je pense que ça l'offre un support puis un coussin pour tout le monde qui se dit « Ok, parfait, c'est ça le guideline ». Puis ça n'a pas l'air rigide, je pense que c'est juste logique là, comme dirigeant d'avoir quelque chose qui est bien écrit. Puis pour ça, les gens, ben, ils ont pas besoin d'interpréter ça, ils ont juste besoin de dire « Bon, ben, j'ai une fois par semaine, puis voici le guideline ». Fait que, en fait, ma vision, c'était justement d'offrir un télétravail avec une façon hybride, que les gens, en fait, se plaisent autant à la maison qu'au bureau. Fait que oui, ça a été bien perçu, mais c'est sûr que, tu sais, on fait beaucoup de sondages, on pose des questions aux gens, on utilise une plateforme québécoise qui s'appelle Office Vibe, qui est un outil là, qui a été conçu par GSoft, qui est une entreprise de technologie, technologique, là, qui sont quand même relativement assez gros. Puis Office Vibe, ça pose des questions toutes les semaines différentes. Donc, tu sais, la santé mentale et la santé physique au travail, le bonheur au travail, ta relation avec ton gestionnaire. Bon, puis à l'intérieur de ça, on pose aussi des side questions de comment tu vis le retour au bureau physiquement, comment tu vis telle affaire. Puis là, ça nous sort des sondages, puis tu sais, on a vu qu'on a des scores très très élevés. Fait que je pense que ça a été bien perçu au final. Mais on aurait pu prendre une toute autre entreprise, mettons la tienne, Antoine, on annonce ça, les 5 personnes de Québec disent c'est des malades, eux autres. Jamais je vais aller à Montréal. Puis ça n'aurait eu aucun bon sens. Mais moi, 100% de mon monde sont Montréal et les très proches environs. Tu sais, je suis pas mal sûr que Jonathan aussi, son monde sont sur la couronne nord de Montréal. Peut-être quelques personnes qui partent de Montréal pour aller chez eux. Mais tu sais, dans mon cas, j'ai une personne qui s'est vraiment exilée à l'autre bout, mettons, de Saint-Jérôme. Puis elle dit, hey, moi, je suis bien confortable d'une fois par semaine. Je vais être tellement content de venir et de voir mes collègues. Tu sais, moi, ça me convient une journée ou deux par semaine. Mais tu sais, on l'a discuté. On est resté dans la communication puis ça s'est bien fait. Mais tu sais, j'embauche personne qui est vraiment dehors de la couronne de Montréal parce que c'est une des exigences d'être là au minimum une fois par semaine.
Jonathan, t'en penses quoi de tout ça? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Ce que je vois beaucoup dans l'industrie présentement, tu sais, nous, on est sur la Rive-Nord, il y a beaucoup d'entreprises à Montréal. Il y a eu tellement de pénurie de main-d'œuvre à Montréal, je pense, dans les derniers 18 mois qu'il y a eu des embauches obligatoires en 100% remote ailleurs que Montréal. Puis il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans des bureaux de Montréal, qui restaient à Montréal, qui ont décidé de s'exiler. Puis JP en parlait justement, un exemple chez eux. Que là, ce que je perçois dans l'industrie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir énormément de difficultés à faire un retour en arrière parce qu'ils ont permis ça. Même si dans leur mindset, ils voudraient que tout le monde revienne au bureau, le fait de le faire, ils risquent d'avoir un 20, 30, 40, 50% de taux de roulement. Nous-mêmes, quand on a dit qu'on s'en allait vers une incitation à ce que le monde revienne au bureau, on a des gens qui ont quitté. Ils disent pas at first, mais on l'entend par les branches par après pourquoi c'est à cause de ça. Puis pour nous, c'est correct. On veut être clair que notre culture, c'est on a besoin de se voir en présentiel. T'sais. Puis je dis souvent à la gang, on est efficace en télétravail, mais le télétravail d'équipe, on n'a pas encore trouvé le moyen de l'être efficace. Donc, si votre tâche demande un focus précis pendant 4 heures ou 8 heures, faites-les chez vous. Puis venez même pas au bureau faire du télétravail au bureau. Là, t'sais. Venez pas faire ça, restez chez vous. Mais moindrement que votre job demande de faire du travail d'équipe puis que ce soit un sport d'équipe, ça se fait pas à travers un écran. Fait que venez au bureau à ce moment-là. Puis encore, comme je disais, le concept des seniors et des juniors, ça se fait pas à travers l'écran. Fait que c'est pour ça que tout le monde s'est clairement identifié là-dessus. Peut-être qu'on fait mauvais chemin. T'sais, l'avenir nous le dira, puis on essaie même d'aller à la tendance inverse de l'industrie. Tout le monde essaie de diminuer leur pied carré de bureau puis d'arrêter les investissements dans leur bureau. On va annoncer la semaine prochaine le démarrage d'un projet au-delà d'un million d'investissements qu'on va faire pour améliorer nos bureaux puis doubler notre superficie pour en faire vraiment une place que les gens veulent se rassembler puis venir au bureau puis pousser. Puis je pense que c'est complètement à l'envers de ce que tout le monde fait dans l'industrie présentement. Puis on est prêt à prendre cette chance-là puis ce risque-là qui est bien calculé au niveau financier. Là. Mais on pense que probablement en allant à l'envers de l'industrie, surtout sur la Rive-Nord, on va être capable d'aller chercher un peu plus de talent de qualité.
Okay. Puis je me fais l'avocat du diable, Jonathan, ici. Tu es dans une industrie, tu le sais, qui est assez, on le sait, là, assez compétitive, le domaine des technologies. Les talents sont difficiles à trouver. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour ces talents-là. Et on le sait, au Québec, c'est pas une très grosse province, donc on est 7 millions. Puis par la suite, si on engage en plus de ça uniquement à des endroits précis, bien là, ça commence à limiter les gens qu'on peut aller chercher. Je te dis ça pourquoi? Parce que nous, on commence à avoir de plus en plus d'employés en Europe. J'aime la dynamique, comment ça se déroule. Je trouve ça fonctionnel. Ça n'a pas été un questionnement de se dire, hey, si on va aller chercher plus de main-d'œuvre, je comprends très bien l'idée de la culture d'entreprise, mais au niveau business, au niveau d'accélération, au niveau de la prise de marché, est-ce que d'avoir des ressources qui pourraient être dans d'autres types de pays, ça pourrait peut-être pas vous aider à aller encore plus vite?
Ben, la réponse, ce serait oui. Mais est-ce que c'est ce qui va faire une culture vraiment forte d'entreprise puis faire qu'on va être la compagnie avec la plus forte culture au Québec, au Canada? Il y a un risque en arrière de tout ça. Donc, je pense que dans les deux avenues, il y a un risque. On l'a dans notre liste d'exploration de voir ce qu'on part des équipes dans d'autres pays. Ce qu'on est en train de regarder plus activement qu'on faisait pas avant, c'est justement d'aller chercher des gens de d'autres pays puis les amener ici pour qu'ils s'installent, exemple, sur la Rive-Nord. Là, c'est un projet qui est actif à l'heure actuelle. Puis à l'envers de tout ça, ce qu'on regarde, c'est vraiment de partir de notre propre école Open Mind pour réussir à faire évoluer des gens qui étaient peut-être dans d'autres secteurs, qui étaient intéressés par les technologies pour les amener à une maturité qui fait du sens pour les prendre en charge dans nos équipes de production. Fait que ça, c'est une autre optique qu'on regarde également. Donc, je dirais pas qu'on est totalement fermé à ça, mais on essaie de privilégier d'autres éléments présentement puis essayer de capitaliser sur d'autres focus qui est au niveau présentiel, bureau et compagnie locale.
J'aime l'idée de l'école pour former des employés. Ben, c'est intéressant, messieurs, de parler culture et de parler environnement de travail ici. Mais là, je pense que je vais aller parler de votre petit dada, ou du moins celui, je suis certain, de Jean-Philippe, et je pense que, Jonathan, tu excelles également à ce niveau-là. Donc, on va parler de développement d'affaires. Donc, on le sait, depuis un an et demi, on a été collés sur notre écran à faire des zooms. Ça nous a donné des maux de tête, ça fatigue, il y a ce qu'on appelle le zoom fatigue. Mais on n'avait pas le choix, c'était comme ça qu'on allait rencontrer des gens. Donc, je sais pertinemment, ou du moins avec toi, Jean-Philippe, que tu es un fan des rencontres en personne. Tu t'en vas, t'aimes aller rencontrer les gens directement à leur bureau ou qui viennent encore une fois à tes bureaux. Comment le développement des affaires chez RabLab s'est déroulé dans les derniers 18 mois et comment penses-tu que tu vas utiliser ces apprentissages-là dans le futur, dans un ère post-COVID-19?
Ben, c'est sûr que ça a été un 18 mois assez intéressant pour le développement des affaires. On a dû beaucoup se réajuster, on a dû changer nos méthodes. Puis effectivement, je suis un fervent amateur d'aller rencontrer les gens en physique. J'ai réalisé qu'avec le fait qu'on faisait la plupart du travail en Zoom puis en virtuel, ben j'ai augmenté ma cadence de peut-être x4 le nombre de rencontres que je pouvais faire dans une journée. Puis c'était un peu terrifiant en même temps parce que j'avais le même nombre d'énergie, mais pour le quadruple de demande de temps. Fait que je me suis dit, bon, ben il va falloir que je concède qu'il va falloir que je travaille plus fort. Puis honnêtement, je me suis adapté. Puis c'est vraiment, en fait, je pense, le shift de mentalité auprès du consommateur. T'sais, j'ai jamais signé des aussi grosses ententes qu'aujourd'hui, tout en virtuel. Puis avant, je me serais jamais pas déplacé pour un des montants aussi grands. Puis en fait, je pense que c'est juste que, justement, j'étais avec le gouvernement ce matin au téléphone, pas pour signer un contrat, mais plus pour des subventions et des trucs qu'on est en train de travailler. Tu sais, il me disait qu'encore 100% de tout ce qui est Emploi Québec, tout ce qui est la partie ministérielle qui s'occupe des entreprises, il n'y a encore personne qui retourne au travail depuis mars 2020. Et tu sais, je pense qu'il y a encore une grosse partie du marché du travail qui est encore en télétravail. Fait qu'il va falloir que ça fasse encore partie de nous pendant longtemps. Fait que, plus précisément, pour répondre à la question, tu sais, moi, la partie du développement des affaires, j'ai vraiment attaqué les plateformes sociales comme premier marché là, pour aller démarcher de la clientèle. Là, fait que, en priorité, LinkedIn, évidemment. Donc, j'ai vraiment mis un très grand focus pour... J'avais déjà quand même une bonne communauté. J'étais un gars déjà assez actif. Je sais que Jonathan est très actif aussi sur LinkedIn. Toi, Antoine, tu l'étais pas. Aujourd'hui, tu l'es. Donc, j'ai vu tes tentatives. I see you. Donc, tu fais très bien ça, d'ailleurs. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je pense que tout le monde a un peu trouvé sa sauce. Moi, je suis définitivement un gars de voix, de voice. Tu sais, j'enregistre des podcasts, je participe sur des émissions. RabLab, on a notre propre podcast maintenant. Je suis moins un gars d'écriture. Tu sais, Jonathan, il pond des textes sur LinkedIn très pensés, très élaborés. Moi, c'est un peu moins ma sauce. Ça me prend 3 jours penser à un texte de 500 mots. Fait que c'est moins ma sauce. Fait que tu sais, je pense qu'il faut juste trouver un peu sa corde d'avec quoi on est à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise avec justement des DM, j'appelle ça, là, donc des messages privés à valeur ajoutée auprès des entreprises. J'ai signé un de nos plus gros clients ever à Blam avec un bon vieux private message sur LinkedIn.
Ah ouais.
Donc, c'est encore un client aujourd'hui, client chez nous depuis avril 2020. C'est un de nos plus gros clients, pan-canadien, une centaine de magasins à travers le Canada. Un bon vieux DM à très haute valeur ajoutée avec un vidéo recording que j'analysais quelque chose, que j'avais vu un problème, que je lui offrais mon aide. C'est pas juste comme, hey, prendre prestation de service, je suis désespéré, loin de là. C'était, il y a un problème que je vois. Si tu vois le même problème que moi, ben, on a clairement la solution pour répondre à ça. Je pense que ça a encore sa place aujourd'hui. Il y a une façon aussi pour pas juste cold caller ou cold email du monde. Je pense que c'est vraiment d'offrir de la valeur ajoutée. Puis moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Puis juste pour terminer aussi, pendant la pandémie, puisque j'ai vraiment pas... En fait, pendant le gros début de la pandémie, pas dans les derniers mois, j'ai eu moins de temps, mais pendant l'émission Dans l'œil du dragon qui avait tous les lundis à Radio-Canada, 20h, donc on va dire plus automne 2020, j'enregistrais en parallèle. En fait, j'appelais ça dans l'œil de JP, puis j'enregistrais en fait en live l'émission, puis je commentais tous les sites web, les plateformes sociales de tous les gens qui étaient là. J'ai pogné 3 clients dans cette année-là. Dans l'œil du dragon. Ouais. Parce que je commentais l'émission, puis en même temps, ben, je mettais sur pause quand la personne avait fini son pitch, on écoutait l'émission, je mettais sur pause. Après ça, j'ouvrais Facebook, Instagram, site web, e-commerce, je checkais est-ce que ça s'est installé, je testais le checkout, je faisais tout, là, tous les tests. Je faisais un genre de cold hard test, comme Jonathan, mettons, quand il finit un site web. Ben, il y a une équipe de développeurs, tu sais, qui varge dans le site web pour essayer de trouver et faire sortir les problèmes. Je faisais la même affaire. Je faisais un genre de, je cherchais un mot depuis tantôt. Je faisais un stress test aux médias sociaux, aussi à ça. Il y en a qui avaient des chatbots. J'essayais leur chatbot. Ça marchait pas. Fait que je sortais tout ça. Puis après ça, de façon très sympathique, j'allais écrire sur LinkedIn puis sur Facebook Messenger à ces entreprises-là en leur disant, hey, j'ai fait une vidéo de genre 1 heure et quelques de l'émission. Mais toi, ton bout, il est de 23.07 à 27.36. Fait que si tu veux l'écouter, voir en réel. Puis presque tout le monde que j'ai envoyé m'a répondu sur une saison en disant « Hey, c'est cool, merci, j'apprécie. » Puis c'est sur tout le monde qui m'ont répondu. J'ai eu 5-6 rencontres, puis j'ai eu 50% de gens qui sont rendus clients chez Rablab. Fait que c'est ça, je pense. C'est de la valeur ajoutée. C'est du temps que je mets, puis je demande rien en retour. Là. T'sais, littéralement, là, je le fais, puis je demande pas des mandats. Là. Vraiment, vraiment pas. Je demande juste à ce que les entreprises soient une coche meilleure sur le web, puis qu'on soit, je veux dire, souverain et indépendant, qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'aller nécessairement sur des marketplaces, que des e-commerce soient indépendants sur leur propre façon de transiger. Fait que bref, c'est un peu ça la mentalité que j'ai en retour de ça. Pas avoir d'attente en retour, puis évidemment, là, on a l'upside là, une année plus tard de tout ça.
Wow, assez fascinant tout ça. Là. Je pense que je vais me prendre des petites notes, là, puis on va voir si c'est quelque chose qu'on pourra peut-être appliquer dans le futur. Donc, Jean-Philippe a toujours des techniques, des trucs et astuces assez intéressantes pour le développement des affaires. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui recherchent des trucs et techniques, allez l'écouter et c'est de quoi il parle.
Ça fera 1 000 $ pour mes services. Je vous en remercie beaucoup.
C'est le podcast qui va avoir été le plus dispendieux aujourd'hui. Donc, 1 000 $ pour un 10 minutes de Jean-Philippe. Mais c'est correct, ça vaut la peine. Il y a de la valeur ajoutée pour l'audience. Et toi, Jonathan, je sais, on avait un souper, toi et moi, récemment. Il y a peut-être littéralement une semaine ou 10 jours de ça où je t'ai posé la question, comment se déroule le développement des affaires chez toi? Et tu me disais, ben nous, tous les prospects qui vont rentrer et qui vont remplir des formulaires sur notre site web vont souvent venir suite à mes efforts de déploiement. Donc, je serais curieux de t'entendre un petit peu quels sont ces efforts de déploiement-là et comment se déroule le développement des affaires chez OpenMind Technology depuis les 18 derniers mois.
Premièrement, on a une force de vente en place qui, eux, vont démarcher des clients. C'est sûr que les cycles de vente se sont allongés versus avant pandémie. Puis là, c'est en train de se résorber présentement. Fait que ça, c'est une bonne chose. Moi, ce que j'ai décidé de me concentrer, puis c'est un guess que je faisais, là, c'est d'essayer de sortir un petit peu plus publiquement, autant pour attirer du talent qu'attirer des clients. Donc, ce qu'on a beaucoup axé, c'est la présence sur LinkedIn. Jusqu'à date, notre pari semble faire du sens. Il y a quand même un bon flot de leads qui rentrent continuellement via LinkedIn. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Là. Puis comme JP, il disait, le syndrome de la page blanche n'est pas toujours évident. Là. C'est quelque chose à sortir les sujets, puis après ça, de les phraser correctement, puis de les amener à quelque chose qui fait du sens. Puis j'étais beaucoup aussi, je détestais ça, parler de moi-même puis de mettre de l'avant sur la place publique. Fait que j'ai dit à l'équipe, I'm gonna take one for the team, je vais le faire. Là, à un moment donné, tu finis par être un petit peu plus à l'aise à travers tout ça, mais je suis pas encore 100% à l'aise, je vais être franc avec vous autres. Là. Je suis quelqu'un qui aime mieux être privé puis être dans l'ombre en arrière qu'être en avant-plan. Mais le résultat, il y a un certain campagne d'effet, puis le résultat est quand même intéressant au bout de la ligne. Là. Donc, on n'est pas déçus là-dessus. Puis au niveau de ce que ça donne, les nouvelles méthodes de vente qui est beaucoup en virtuel, comme JP disait, je pense qu'on a augmenté notre cadence de rencontres. Nous autres, c'est à peu près x2 qu'on est capable de faire plus de rencontres. Par contre, la connexion avec le client et la compréhension du besoin, elle est moindre. Je dirais un sur l'autre, on arrive à peu près au même résultat au final en termes de closing puis de volume d'affaires qu'on est capable de fermer. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avant pandémie, notre seul visée de tomber à l'international, c'est avec nos produits qu'on développe dans notre incubateur Open Lab chez OpenMind pour aller à l'international. Puis là, maintenant, on est vraiment en train de regarder activement comment qu'on pourrait attaquer le marché des États-Unis. Puis on a des services, clairement, qu'on est capable de vendre à distance, qu'on est capable de faire la prestation entièrement à distance. Donc, ça nous ouvre une porte qui, dans ma tête, était fermée avant la pandémie. Fait que je pense que pour ça, ça va nous aider beaucoup pour l'expansion devant nous autres. On est encore très early dans ce processus-là d'exploration, mais je pense que si on se reparle dans 6, 12, 18 mois, il va probablement avoir quelque chose d'intéressant qui va sortir de l'équipe à travers tout ça. Non?
Je peux juste rajouter, tu sais, je pense qu'on est rendu aussi avec tout ce qu'on vient de vivre, puis il y a comme un shift de mentalité que les gens s'attendent plus nécessairement à ce qu'on se déplace. Je pense que c'est un facteur aussi à considérer.
Bien sûr.
Parce que si tu te souviens, Antoine, c'est quand même quelques années qu'on se connaît. Les premières fois qu'on s'était rencontrés, je disais, hey, moi, je vais voir les clients pour, tu sais, closer mes deals, puis tout ça. Puis tu disais, t'es un malade, on se déplace pas, puis c'est parfait. Puis t'avais entièrement raison dans ta façon de penser, parce que tu le traitais comme ça. Mais toi, de la façon dont tu le travaillais, ça fitait ou fitait pas avec des entreprises. Là, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est juste qu'on a la flexibilité de faire les deux. Puis, dans le fond, tu fais juste un peu feel the room. Qu'est-ce que l'entreprise s'attend en termes de processus, en fait, de vente, au processus d'accompagnement pour faire la découverte de besoins. Puis tout est dans la discussion, là. Tu sais, tu parles avec une entreprise, puis ils disent, écoute, moi, j'aimerais vraiment ça, si vous pouviez venir ici, j'aimerais ça te rencontrer mon directeur marketing, mon CTO, nanana. Ben, dis pas, non, ça va être en virtuel. Des bonnes chances que vous gagnez pas. Mais si le client dit, écoute, on fait une première rencontre Teams, après ça, mon CTO, il est au Madagascar pendant 2 semaines, il va te faire ça jeudi prochain. Ben, tu sais, clairement, pousse pas pour aller rencontrer en personne. Tu sais, je pense que faut plus que jamais feel the room, comprendre les réels besoins du client, puis un peu, tu sais, lire entre les lignes. Puis à travers ça, je pense que c'est juste qu'on a, en ce moment, on a le choix de déterminer comment qu'on va faire. Est-ce qu'on le fait 100% présentiel, 100% virtuel, un peu des deux. Tu sais, moi, on a signé une très grosse entente il y a quelques semaines. Ben, j'ai fait un hybride entre les deux. J'ai tout fait la prise de besoin, les premières rencontres avec le CMO puis tout ça en virtuel. Puis on a fait la présentation en présentiel, puis on a négocié en virtuel, puis on a signé le deal en virtuel. Mais tu sais, au moins, pour faire le pitch, on était là, on a donné une poignée de main après un peu de bon curel. Tu sais, on était là, on a vraiment feel de chaque côté. On a fait un 50%. Fait 50% chez eux, 50% en virtuel. Puis tu sais, je pense que ça a fait la différence parce que sur 5-6 agences qui ont participé, personne ne s'est déplacé. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui a fait toute la différence? Non, mais il m'a dit qu'ils l'ont quand même considéré parce que je l'ai demandé. Je disais en passant, est-ce que vous avez un problématique? Est-ce que je me déplace? T'sais, j'aimerais ça venir vous rencontrer, vous voir physiquement. J'amènerais mon chef d'équipe qui va participer à ce projet. Il a dit, écoute, ça me ferait bien plaisir, c'est le fun, t'es le seul qui nous le demande. Ah, bon voilà. Fait qu'en fait, on revient à quelque chose qui n'est pas un secret gardé des dieux, là. C'est de demander. Puis c'est la première chose en développement des affaires, c'est you gotta ask. T'sais, faut que tu demandes la commande, faut que tu demandes les besoins, faut que tu demandes la permission. Fait que si on demande pas, on le saura pas. Fait que on demande, puis ça va tout donner les étapes de notre processus.
Intéressant. Jonathan, t'as de quoi rajouter?
Mais c'est un bon point, JP, que t'apportes, parce que on a participé à un appel d'offres dernièrement, puis j'ai été dîner avec le président de l'entreprise qui a fait l'appel d'offres, puis il disait, écoute, il y en a un seul de l'appel d'offres qui est venu sur place voir qu'est-ce que ça avait de l'air, puis tout le monde en virtuel. Puis effectivement, ça semblait avoir créé un effet wow, le fait que la personne s'est déplacée sur place. Je pense que on prend pour acquis que tout le monde est correct en virtuel, mais je pense que le fait de le demander, ça nous avantagerait probablement beaucoup, puis surtout, peut-être nous démarquer beaucoup des autres. Avant, tout le monde était en présentiel, fait que si on allait en virtuel, on se désavantageait énormément, mais là, il y a peut-être un avantage à aller chercher dans certains cas, d'aller sur place qu'on n'avait pas avant. Je trouve ça intéressant.
C'est aussi simple que de demander, là. C'est aussi simple que de dire, en passant, que vous seriez confortable, est-ce qu'on aille luncher, j'aimerais ça vous le montrer, ou j'aille sur place. Et le client dit, écoute, la plupart du monde sont en télétravail, c'est short on time, ça me tente pas beaucoup. Pas de problème, on fait ça en virtuel. Et tu sais, ça a pris 3 secondes, puis tout est réglé, là.
Intéressant ce que vous dites, messieurs. Ben regardez, je vais peut-être conclure le tout en vous parlant un petit peu de nous, comment qu'on utilise, comment qu'on travaille notre développement des affaires chez G7. Ben c'est un peu comme on fait aujourd'hui. Donc, c'est du contenu et du contenu sans jamais arrêter. Ce qui est totalement fascinant pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui, qui se pose des questions sur quel impact un podcast peut avoir sur son entreprise, ben c'est pas compliqué. Un podcast peut littéralement changer totalement votre entreprise parce que si vous créez du contenu continuellement de manière à l'audio, hein, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ce qui se déroule, c'est que vous créez une relation avec votre audience qui est très difficile de créer si vous la faites à l'écrit. À l'écrit, tu regardes un texte, tu lis un texte, mais quand tu écoutes quelqu'un dans tes écouteurs, 30-40 minutes par semaine, ultimement, tu commences à connaître cette personne-là. Et quand tu arrives à avoir des conversations pour faire des affaires, ben la personne te connaît déjà. Et quand la personne te connaît déjà, ben pas obligé de vous expliquer que c'est beaucoup plus rapide pour les cycles de vente. Donc, je pense que s'il y a des choses que les gens peuvent se rappeler aujourd'hui de ce que vous avez dit, que j'ai trouvé fascinant, c'est on demande hein, si une rencontre en présentiel peut être intéressante pour les deux parties. Je pense que c'est quelque chose d'important. Créer du contenu, les gens sont en ligne beaucoup plus que jamais avec tout ce qui s'est déroulé depuis les 18 derniers mois. Maintenant, ils sont à la recherche de contenu. Soyez ce type de contenu-là que les gens vont consommer. Ça risque de vous aider pour votre organisation. Messieurs, on arrive un peu à la fin des sujets discutés aujourd'hui. Là, c'est le temps de dire qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous recherchez peut-être chez OpenMind et chez RabLab en ce moment. Jonathan, je te laisse la parole. Est-ce que peut-être tu as des postes ouverts? Est-ce que tu voudrais parler un petit peu de tes services? On t'écoute.
Oui, certainement. Dans le fond, on aide les entreprises dans leur transformation numérique. On les aide à être plus efficaces, plus productifs par la technologie. On a deux grandes équipes de services, une qui fait beaucoup de développement applicatif sur mesure. Donc, on est très fort dans les automatisations de tableaux de bord, interconnexion de logiciels qui ne se parlent pas, qui devraient se parler, et modernisation de vieilles applications sur mesure pour les ramener dans de nouvelles technologies. Et notre autre grande équipe de services, c'est du Managed Service Provider, donc l'infogérance des parcs informatiques. À l'heure actuelle, au niveau main-d'œuvre, on a plusieurs postes ouverts, techniciens informatiques, administrateurs système, développeurs, on a des postes de chargé de projet, on va agrandir la force de vente et il y a de la place également dans l'équipe marketing. Donc, on a plein d'ouvertures et on y va pour la croissance. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes des gens passionnés en technologie, venez nous rejoindre, on a de la place.
On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Et Jean-Philippe, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu aurais besoin en ce moment? Peut-être que l'audience d'hypercroissance va pouvoir répondre à tes demandes aujourd'hui.
On a besoin de techniciens, mais en fait, des gens qui sont spécialisés en tout ce qui est marketing numérique, donc réseaux sociaux. Fait que vous avez le choix, c'est J7 ou RabLab. donc, c'est le seul bout que je partage ma vie avec Antoine, c'est la partie médias sociaux. Mais en passant, je peux faire la différence. Très différent ce que Antoine fait en Facebook Ad de ce que RabLab fait en Facebook Ad. Nous, c'est un service d'appel un peu, je vais dire, qui s'imbrique dans notre offre 360 de marketing numérique. Donc, on fait marketing sur les moteurs de recherche, référencement sur les moteurs de recherche, donc référencement naturel plus publicité sur les médias sociaux. Mais c'est à peu près one fifth of the business. Donc, c'est un petit bloc de service sur la grandeur. Donc, en réalité, notre spécialité, c'est vraiment le marketing numérique de performance. Donc, on aide les entreprises à aller du point A au point B en traçant en fait tout le portrait de leurs consommateurs, en déterminant les différents niveaux d'acquisition. Parce qu'on s'entend, surtout avec les changements qu'on a vécu avec la pandémie, le consommateur est plus « je clique sur une pub, j'arrive sur un site, j'achète ». Le consommateur est bousculé dans son processus d'achat, autant que ce soit un produit de consommation de masse, que ce soit un produit aussi dispendieux qu'une maison, qu'un auto. Bref, les processus d'achat des consommateurs ont changé, donc faut adapter aussi nos processus d'affaires là-dedans. Donc vraiment, c'est tout cet accompagnement-là. Puis ce qu'on cherche, en fait, c'est justement des gens qui sont spécialisés. En fait, je dirais le gros besoin à l'heure actuelle, c'est quelqu'un de relativement assez, je dirais, intermédiaire slash senior dans tout ce qui est SEM puis programmatique. Donc, tout ce qui est Google Ads puis programmatique, qui est la partie premium de Google Ads, DV360, Stack Adapt. Donc, tout ce qui est les plateformes de RTB, pour ceux qui connaissent ça, de Real Time Bidding. Fait que bref, c'est ça les gros besoins qu'on a en ce moment. On cherche minimum 2, même je dirais, je prendrais 3 personnes là-dedans. Puis après ça, toujours une équipe de référencement organique, de SEO qui a grandi. Puis si je pourrais dire aussi pour les besoins de l'audience, on est en finalisation d'obtenir une certification B Corp. Donc, wow. Je l'ai écrit sur LinkedIn à Antoine qui m'a posé une question très ingénieuse ce matin. Mais en fait, pour ceux que ça intéresse, je trouve que pour nous, ça va devenir un selling point. Il y a beaucoup de belles entreprises québécoises qui se sont adaptées, bon, évidemment, de façon sociétale puis organisationnellement pour suivre les besoins de la société. Puis B Corp, c'est une belle certification, c'est une norme mondiale qui est quand même très difficile à appliquer. Près de 100 entreprises qui appliquent, il y en a 60% qui réussissent pas à embarquer, en fait, à avoir l'homologation. Donc, en fait, on est en train de finaliser ça. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, c'est juste un saut d'authentification qui dit on care pour notre monde, on care pour la planète, on care pour la société de demain. Donc, c'est vraiment ces trois créneaux-là qui est le plus important. Puis là-dedans, il y a plein de belles entreprises québécoises. Je vous invite à aller voir. Là, c'est B Corp, c'est une norme certification mondiale. Je pense que c'est un juste un beau saut d'authentification supplémentaire pour dire eux, ils savent de quoi ils parlent, ils traitent bien leur monde. Les dirigeants ont à cœur autant la planète que la société. Fait que c'est pas juste une question de faire des gros profits, c'est aussi une question de contribuer à ce qu'on avance tout le monde ensemble.
Merveilleux. Ben Jean-Philippe, on va mettre un lien dans les notes de l'épisode et félicitations pour cette certification-là, B Corp. Plusieurs des prochains épisodes des Hypercroissance sont reliés à, d'ailleurs à ce thème-là. On a eu Marie-Josée Richer de La Dragon qui a l'entreprise Prana qui est venue nous parler spécifiquement de B Corp. On a également l'entreprise The Unscented Company qui est venue nous en parler. Donc, si Rab Lab rentre également B Corp, là, ça commence à faire beaucoup de nos invités qui ont cette certification-là. Donc, c'est merveilleux. C'est une très bonne chose.
No pressure, Jonathan.
On a parlé avec Antoine la semaine passée. Là, je comprends de où que ça vient. Là.
Fait que je m'en fais parler, là.
Fait que troisième podcast, ça va être sur B Corp, c'est bon.
Exact. Tous nos invités en passant.
Exact, exact. Mais même pour nous, là, c'est, on s'en fait parler, là, à un moment donné, c'est ça qui est la beauté de parler avec des chefs d'entreprise continuellement, c'est que t'es capable d'aller prendre l'information que peut-être que t'aurais pas pensé, puis par la suite, tu ressors de là, tu dis, oh, OK, c'est peut-être le temps que je passe à l'action là-dessus. Donc, toujours intéressant d'en savoir un peu plus. Messieurs, merci beaucoup. Vous venez de donner énormément de contenu à valeur très ajouté à l'audience, j'en suis convaincu. Je vous remercie profondément. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Hypercroissance.